de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, jeudi, le 7 mai 2020. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les commentaires, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Desserré le confinement, les Australiens peuvent prendre des vacances domestiques. La Palestine met fin à tous les accords avec les États-Unis et l'Israël. L'épidémie de corona s'atténue. Les écoles sud-coréennes rouvrent. Le président lance 55 produits d'innovation nationale pour gérer la COVID-19. L'atmosphère émotionnelle a coloré le retour des citoyens indonésiens détenus en Nantes par un rapat khima indépendant. L'ambassade d'Indonésie organise un événement virtuel de Ramadan au milieu d'une pandémie en Jordanie. Le Brésil a publié un nouveau protocole pour l'utilisation de la chloroquine. Voici le journal complet. Les Australiens de la Nouvelle-Galles du Sud pourront passer des vacances dans le mois prochain. Il s'agit d'une tentative du gouvernement australien d'améliorer l'économie frappée par la pandémie du coronavirus. Cette étape permettra à l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, d'ouvrir une zone touristique sur sa côte sud. Cette zone a été gravement endommagée par des incendies de forêt massifs avant que le virus ne provoque un nouveau chaos. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré mercredi que les gens devaient encore s'adapter à la nouvelle normalité, car les responsables maintiennent certaines mesures sociales. L'Australie a signalé plus de 7000 infections, dont 100 décès. La Nouvelle-Galles du Sud, le pays le plus durement touché, n'a enregistré que 4 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Les États et territoires australiens mettent en œuvre un plan de gouvernement fédéral en 3 étapes pour assouplir les mesures de confinement. Autrement dit, différentes régions du pays ont des frontières différentes. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que son gouvernement avait mis fin à tous les accords signés avec Israël et les États-Unis. Cela a été transmis par le président Abbas lors d'une réunion d'urgence à Ramallah, mardi heure locale. La mesure dramatique d'Abbas a été faite au milieu des plans israéliens d'annexer la Cisjordanie. Mercredi, l'Organisation de libération de la Palestine et la Palestine se sont libérées de tous les accords avec Israël et les États-Unis, comme rapporté par Arab News et Al Jazeera mercredi. Selon lui, la Palestine est également libre de l'obligation de respecter les accords, y compris les accords de sécurité. Il a révélé que l'un des accords qui avait été résilié était l'accord d'Oslo, signé en 1993. Abbas a souligné qu'avec la résiliation de l'accord, cela signifie que l'Israël assume toutes les responsabilités et les obligations devant la communauté internationale en tant qu'entité occupant des terres palestiniennes. Les écoles en Corée du Sud ont rouvert après que la pandémie de corona a commencé à s'atténuer. Mais les élèves doivent toujours suivre les protocoles de santé applicables. Comme rapporté par l'AFP mercredi, des centaines de milliers d'élèves sud-coréens sont retournés à l'école mercredi. L'école a rouvert après que les restrictions de corona aient duré plus de 2 mois. La Corée du Sud a connu l'une des pires épidémies du virus corona, devenant même le pays le plus touché par ce virus après la Chine. Un certain nombre de partis ont encouragé les autorités à reporter la réouverture des écoles au début de mars. Mais il semble que la Corée du Sud ait réussi à contrôler l'épidémie grâce au programme de suivi, tests et traitements qui est largement mis en œuvre. Le président Joko Widodo a lancé 55 produits d'innovation et de recherche fabriqués par des chercheurs indonésiens pour lutter contre le nouveau type de virus corona. Cela a été dit par le président Jokowi lors du lancement des produits d'innovation COVID-19, le renouveau des innovations indonésiennes par téléconférence à Jakarta mercredi. Le lancement des produits du consortium de recherche et d'innovation de COVID-19 est de commémorer la journée nationale du réveil le 20 mai. Le lancement était assisté le ministre de la Recherche et de la Technologie en tant que chef de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, Bambang Brojonegoro. Lors du lancement des 55 produits, le président a présenté 9 produits qui avaient été examinés directement et étaient prêts à être reproduits. Ces produits étaient entre autres un appareil de test de réaction en chaîne par polymérase ou PCR pour diagnostiquer le virus corona dans les corps humains, l'outil de test rapide qui doit également détecter la COVID-19, ventilateur ou appareil respiratoire d'urgence développé par l'Agence d'application et d'évaluation des technologies ou BWPT en collaboration avec un certain nombre d'universités et des hommes d'affaires. L'ambassade de la République d'Indonésie à New Delhi a réussi à faciliter le retour des citoyens indonésiens détenus en Nantes grâce à un programme de rapatriement indépendant en utilisant le vol spécial des compagnies aériennes Air India au départ de New Delhi mercredi. L'avion Air India avec le code de vol AI-13048-1 part de l'embarquement de l'aéroport international Indira Gandhi ou IGIA à 18h31 et arrivé à l'aéroport de Soekarno-Hatta à 14h45 heure de Jakarta. À son arrivée à Jakarta, l'avion d'Air India a rapatrié des citoyens indonésiens d'Indonésie vers l'Inde. Au total, 73 passagers sont composés de 59 citoyens indonésiens, 13 citoyens indiens et 1 citoyen russe. Sur 59 citoyens indonésiens qui ont participé à ce rapatriement, 38 étaient des voyageurs, 10 étudiants, 3 entraîneurs de badminton et 7 professionnels. L'ambassadeur d'Indonésie, Arto Suryodipuro, dans un communiqué reçu par Voice of Indonesia mercredi, a participé à la libération du départ des citoyens indonésiens à l'aéroport IGIA de New Delhi et à interagir directement avec les citoyens indonésiens pour s'assurer que tous les préparatifs du départ, les documents administratifs et médicaux étaient bien préparés. L'ambassade de la République d'Indonésie a aman organisé une activité virtuelle pour continuer à mener à bien la mission de responsabiliser les citoyens indonésiens en Jordanie pendant le mois de Ramadan au milieu de la pandémie de COVID-19. La crise pandémique de COVID-19 en Jordanie n'a pas freiné le rôle de l'ambassade d'Indonésie à Amman pour établir une relation amicale avec les citoyens indonésiens en Jordanie. Cela a été indiqué dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Amman qui a été reçue mercredi à Jakarta. Depuis la promulgation du statut de confinement et de mise en quarantaine de l'ensemble du territoire jordanien, les activités communautaires pendant le mois de Ramadan, comme l'ouverture conjointe, la récitation et la prière tarawih, ne peuvent pratiquement pas se faire comme les années précédentes dans une situation pleine de limites. L'une des percées de l'ambassade d'Indonésie à Amman a été la tenue d'un concours en ligne de dakwah et concours de lecture de Quran ou MTQ pour les étudiants et les élèves indonésiens en Jordanie. L'événement qui s'est tenu du 15 au 18 mai 2020 a attiré l'attention de plus de 40 participants et des centaines de téléspectateurs qui ont regardé en direct sur la chaîne YouTube de l'ambassade d'Indonésie à Amman. Le ministère brésilien de la Santé a publié mercredi un nouveau protocole étendant les recommandations d'utilisation de la chloroquine pour le traitement du coronavirus. comme l'a déclaré mercredi le président Jair Bolsonaro. Bolsonaro a publié la déclaration quelques jours après que le ministre de la Santé a démissionné sous pression pour signer le nouveau protocole. Le ministre de la Santé temporaire, Eduardo Pazello, le général de l'armée qui est toujours en charge, signera le nouveau protocole et restera au premier rang pour l'instant. Bolsonaro a affirmé avoir gardé une boîte de médicaments antipaludiques en prévision de sa mère de 93 ans qui avait besoin de ce médicament. Il faisait référence au président américain Donald Trump qui a également pris le médicament comme la prévention de COVID-19. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, l'innovation au milieu de pandémie. Hier, le 20 mai était célébré comme journée de réveil national pour le peuple indonésien. Le réveil qui est commencé du mouvement de la jeunesse indonésienne en 1908 par les étudiants en médecine de Stovia à Jakarta était significatif pour le peuple indonésien dans la lutte pour l'indépendance des entraves du colonialisme néerlandais. Depuis la réunion des jeunes du 20 mai 1908, le réveil du peuple indonésien a commencé par le biais de l'organisation Budi Utomo, ce qui signifie la noble personnalité. La nature du nationalisme a été soulevée dans les réunions des jeunes à travers l'utilisation du malais comme langue officielle et n'est pas javanaise, bien que la majorité soit d'origine javanaise. Au milieu de l'épidémie actuelle de COVID-19, le réveil de la jeunesse indonésienne est très significatif pour la survie du pays. Dans les mains de la prochaine génération de la nation, l'Indonésie a réveillé et a réussi à travers l'innovation. Lors de la Journée nationale du réveil 2020, le président Joko Widodo a marqué le lancement du produit collaboratif des étudiants de l'Université Erlangga Surabaya avec le titre « Le réveil quasi innovation Indonesia, lancement du produit d'innovation de COVID-19 » qui a été initié par le ministère de la Recherche et de la Technologie en collaboration avec l'Agence nationale de recherche et d'innovation. La commémoration de la Journée nationale du réveil s'est déroulée en ligne au milieu de l'épidémie de COVID-19 et de l'application du protocole de santé. À cette occasion, le président Joko Widodo est optimiste à l'indépendance du peuple indonésien face à COVID-19 en émergeant de produits nationaux de recherche et d'innovation. Selon le président, lorsque l'inquiétude qui a été causée par la pandémie de COVID-19 a tué des centaines de milliers de personnes, il fallait insuffler de la fierté dans l'utilisation des produits nationaux. Pendant ce temps, le ministre de la Recherche et de la Technologie, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le lancement de produits de recherche et d'innovation du consortium de COVID-19, qui coïncidait avec la Journée nationale du réveil, pourrait être interprété comme la renaissance de l'innovation indonésienne. Dans sa présentation, le ministre Bambang Brojonegoro a souligné qu'un certain nombre d'universités devenaient l'un des partenaires de collaboration pour trouver des produits innovants, en particulier pour faire face à la pandémie de COVID-19. Selon lui, au moins, la compréhension sur les produits innovants a de la nouveauté et de la valeur ajoutée. Outre les universités, le ministère de la Recherche et de la Technologie collabore également avec un certain nombre de ministères, d'agences et d'institutions pour produire diverses innovations. En effet, le réveil de la nation à travers l'innovation ne se fait pas toujours chez les jeunes, mais chez tous, sans distinction d'âge. L'innovation est une forme d'indépendance et vous abandonnez les routines monotones pour la survie. Pendant ce temps, le réveil est l'esprit d'innovation et de changement. Sans une âme réveillante, nous restons dans un endroit, ne bouge pas, ne se réveille pas et peut être monotone dans la situation qui se produit. Ainsi, l'âme peut se lever pour aligner les différences de manière à sortir du monotone hors de la boîte à travers l'innovation et du changement. Espérons que pendant la pandémie de COVID-19, l'innovation a émergé non seulement des dispositifs médicaux, mais des innovations dans d'autres domaines, comme une forme de résistance pour maintenir la survie et la vie de la nation indonésienne. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers amis de l'antenne, après le commentaire, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 21 mai 1998, Suharto a annoncé sa démission de la présidence. Le général Mohamed Suharto était le deuxième président de l'Indonésie étant au pouvoir de 1966 à 1998. Avant de devenir président, Suharto était en chef militaire pendant l'occupation japonaise et hollandaise avec le dernier rang de major général. La sanction de Suharto a commencé avec le mouvement du 30 septembre 1965. Armé d'une lettre de mission du président Soekarno, Suharto a déclaré que PKI était la partie responsable et a mené l'opération pour l'écraser. Avec un régime appelé le Nouvel Ordre, Suharto a régné pendant 32 ans. Mais la crise économique financière qui a commencé au mi-1997 et la détérioration de la situation politique avec la montée des manifestations des étudiants et des émeutes de mai 1998 ont forcé Suharto à démissionner de son poste le 21 mai 1998 et a remis à son actuel vice-président B.J. Habibie. L'autre information est sur la Journée mondiale de la diversité culturelle le 21 mai 2002. Suite à l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle en novembre 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 mai Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement par la résolution numéro 57/249. La journée offre une opportunité pour approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux vivre ensemble. C'est pourquoi l'UNESCO fait appel aux États membres et à la société civile pour célébrer cette année en y associant le plus grand nombre d'acteurs et de partenaires. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le référendum de l'indépendance pour Monténégro. Le référendum sur l'indépendance de Monténégro de 2006 était un référendum organisé au Monténégro le 21 mai 2006 pour déterminer le statut politique de la région. 55,5% des électeurs soutiennent l'indépendance du Monténégro et ce pourcentage dépasse le seuil minimal de 55%. Le 23 mai, les premiers résultats du référendum ont été reconnus par 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de sorte que l'indépendance du Monténégro a été reconnue par le monde. Le 21 mai, la commission du référendum officiellement confirme le résultat du référendum qui a montré que la majorité des Monténégrins soutenaient l'indépendance. Le Parlement du Monténégro déclare officiellement son indépendance le 3 juin 2006. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Awal kita bersama, kau tunjukkan cinta. Kau percayakan hatimu padaku, walaupun ku lelaki biasa. Tak pernah sekalipun kau meragukan diriku, Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenalah diriku sebaik ku mengenangmu. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaik ku mengenangmu.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Ces auditeurs détestent le monde entier le programme Mon Indonésie ce soir, intitulé L'installation de l'élimination des déchets médicaux dans les zones éloignées, est devenue la préoccupation du ministère de l'Environnement et des Forêts. La question de la disponibilité des installations de l'élimination des déchets médicaux dans les zones reculées est devenue la préoccupation du ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, pendant la période d'urgence dans l'accélération de la gestion de la pandémie de COVID-19. Cela a été soulevé lors de la réunion de coordination régionale sur la gestion des déchets médicaux de la période COVID-19 qui a été organisée virtuellement par le ministère de l'Environnement et des Forêts avec le bureau provincial de l'Environnement, le bureau provincial de la Santé, tous les bureaux des services environnementaux de la ville, de la Régence et le ministère de la Santé à Jakarta lundi. Madame la directrice générale de la gestion des déchets des produits dangereux et toxiques du ministère de l'Environnement et des Forêts, Rosa Vivienne Ratnawati, a demandé à l'Agence pour l'Environnement de soutenir et d'aider les établissements de soins de santé dans la conduite des procédures d'inhumation conformément au règlement du ministère de l'Environnement et des Forêts concernant les procédures techniques et les exigences techniques pour la gestion des matières dangereuses, toxiques, des installations de services de santé. Elle a déclaré que les déchets médicaux étaient des déchets dangereux et toxiques B3 qui devaient être bien gérés, en particulier pendant la pandémie d'urgence de la COVID-19. L'élimination correcte des déchets infectieux est très importante pour briser la chaîne de transmission et réduire la propagation de la COVID-19. À l'heure actuelle, des déchets médicaux ne proviennent pas seulement de l'hôpital de référence et de l'hôpital d'urgence de COVID-19, mais peuvent provenir de la communauté ou le ménage des personnes sous surveillance ODP et patients sous surveillance PDP, tels que le déchet de masques utilisés et l'équipement de la protection individuelle utilisé. Fifiane Ratnawati a déclaré que la quantité de déchets médicaux de la pandémie de COVID-19 a augmenté de 30%, tandis que la capacité de traitement des déchets médicaux B3 dans plusieurs régions, en particulier en dehors de Java, était encore limitée. La directrice de l'évaluation des performances de la gestion des déchets B3 et des déchets non dangereux du ministère de l'Environnement et des Forêts, Sinta Saptarina Sumiarno, a déclaré à la même occasion que la réponse et la solution de ce problème était la construction de 32 installations de l'élimination des déchets médicaux B3 en 2020 à 2024 avec le budget de l'État du ministère de l'Environnement et des Forêts qui sera soumis et géré par chaque gouvernement local. L'existence de cet établissement vise également à soutenir les installations des services de santé afin qu'ils se concentrent sur l'amélioration des services médicaux pour la communauté. Le système de surveillance des performances de ces installations est également une priorité pour la surveillance du ministère de l'Environnement et des Forêts. Ces auditeurs, c'était la rubrique Mon Indonésie ce soir. À demain.
You and me.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé « La colline de Kosakora ». Yogyakarta possède des destinations touristiques intéressantes à explorer. Il y a le tourisme religieux, historique, culinaire et les belles plages. L'un d'entre eux est la plage de Ngrumput avec la colline de Kosakora. La colline de Kosakora se trouve précisément à Banjarjo, Tanjung Sari, dans la région de Gunung Kidul, ce lieu idéal pour le camping. Le temps de trajet depuis Jogja est d'environ 1 heure jusqu'à 2 heures. Pour entrer sur cette colline, vous pouvez entrer via la place de Drini avec un ticket d'entrée de 10 000 rupiah par personne. Si vous voulez visiter la colline de Kosakora, vous devez être prêt pour la randonnée ou bien la promenade dans les chambres appartenant aux résidents locaux avec des roses coralliennes pointues. La distance entre le parking et la colline est d'environ 800 mètres avec des conditions de terrain variables. La colline de Kosakora est le résultat du phénomène exocars à Gunung Kidul, une colline karstique alignée sur une rangée de belles plages de Gunung Kidul. La plage de Ngrumput, la plage de Drini, la plage de Watu Kodok, la plage de Sepanjang, la plage de Kukup et le phare de la plage de Baron à l'extrême ouest sont visibles depuis cette colline de Kosakora. L'emplacement de la colline qui a une zone plate est assez vaste. Elle est idéale pour le camping et regarder le coucher du soleil et le lever du soleil. Si vous avez l'intention d'y aller, il vaut mieux de venir le matin ou le soir parce que le soleil sera très chaud à midi. Et si vous voulez y camper et ne pas porter une tente, vous pouvez le louer aux vendeurs sur la colline. C'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie intitulé « La colline de Kosakora ». Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminée.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulé Festival des Arts de Bali 2019. Du 15 juin au 13 juillet 2019, le Festival des Arts de Bali aura lieu. Le Bali Art Festival mettra en valeur la richesse des arts et de la culture balinais. Des dizaines de milliers d'artistes balinais participeront au 41e festival qui célébrera le vent comme source de vie à travers le thème Bayu Pramana, glorifier les ressources éoliennes. Le Festival des Arts de Bali sera officiellement ouvert par le président Joko Widodo dans la soirée du 15 juin après un défilé d'euros. La cérémonie d'ouverture aura lieu au Centre des Arts Verdi Budaya, un vaste complexe culturel à Denpasar oriental. Le Festival des Arts de Bali s'ouvre le 15 juin avec une activité de défilé d'euros. Le défilé d'euros met en vedette plus de 1500 joueurs sur l'autoroute Puputan Renon Denpasar qui entoure le monument Bajrasandhi. En plus de présenter des spectacles artistiques et culturels de toute Bali, le défilé impliquera des groupes artistiques d'autres régions d'Indonésie et de l'étranger, tels que la Papouasie, Sumenep à Javaès, l'Indi et la Chine. Outre la représentation des arts, il existe également des expositions des arts et d'artisanat, des ateliers, des séminaires, des compétitions et des événements culinaires authentiques balinais. Le Festival des Arts de Bali a été organisé pour la première fois en 1979, à l'époque où le gouverneur Ida Bagus Mantra avait décidé que le gouvernement devait fournir un espace et des fonds pour promouvoir la culture locale et préserver la communauté des esthétiques. Avec ses 41 ans d'histoire, le Festival des Arts de Bali est devenu un moyen de redécouvrir et de préserver les arts et la culture balinais unique et célébrée, tout en améliorant le bien-être de ses habitants. Grâce à cet événement annuel spécial, on espère que la sagesse et la philosophie authentique de la société balinais seront non seulement préservées, mais ils se développeront et se répandront également dans le monde entier. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Semua kelemahan kau jadikan cinta sejati takku temukan. Darimu aku bisa
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour l'édition de ce soir, nous allons vous présenter une chanson religieuse intitulée « Keagungan Tuhan ou la Majesté de Dieu » chantée par Rita Effendi. Cette chanson composée par Amalik Bouzaïd a été popularisée par une chanteuse senior, Ida Laila. La chanson lancée en 1964 est un succès à ce moment. Jusqu'à présent, environ 40 musiciens indonésiens ont réarrangé la chanson intitulée « La Majesté de Dieu » parmi lesquels Deloitte, Titi Sandora, Ike Nurjana, Vidi Aldiano et Is Dahlia. Cette chanson invite les auditeurs à se repentir et à continuer à faire de bonnes actions avant la mort. Bon, chers auditeurs, voici donc Rita Effendi avec sa chanson intitulée « La Majesté de Dieu ». Bonne écoute et à demain!
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.